La Noël des assiégés. Discours prononcé au Temple du Saint-Esprit le 25 décembre 1870. Le 5 décembre, le général de Moltke s'empressa, pour décourager notre résistance, de nous faire savoir la défaite de l'armée de la Loire et la réoccupation d'Orléans par les troupes allemandes. Le général Trochu répondit avec dignité à cette communication d'un caractère étrange. Des procédés d'intimidation plus étranges encore furent employés par des agents prussiens subalternes. Des pigeons qui avaient été capturés avec un ballon tombé dans les lignes ennemies nous arrivèrent avec des dépêches apocryphes annonçant que Rouen était pris, que les Prussiens marchaient sur Cherbourg et qu'ils étaient acclamés par les populations rurales. Paris ne se laissa pas émouvoir par ces manœuvres. Il continua à supporter courageusement des privations et des souffrances croissantes, et il se tint prêt pour une nouvelle action offensive. Les gardes nationaux de marche se montraient les plus impatients de marcher à l'ennemi, et leurs bataillons, toujours plus nombreux, achevait de s'équiper avec une activité que soutenait un ardent patriotisme. Le lundi 19 décembre, les portes de la ville se ferment à midi, ce qui indique l'imminence de l'action. Le mardi, on lit sur les murs la proclamation suivante. Le gouverneur est parti le soir pour se mettre à la tête de l'armée. Des opérations importantes de guerre devront commencer demain, 21 décembre, au point du jour. Tous les mouvements de troupes se sont exécutés avec la plus grande régularité et, à l'heure qu'il est, il y a plus de 100 bataillons de garde nationale mobilisés en dehors de Paris. Le mercredi 21 décembre, nous nous rendons avec les voitures de nos ambulances évangéliques au village de Bobigny. Sur ce point, nous ne sommes témoins que d'un grand combat d'artillerie qui fait peu de victimes parmi nos canonniers. Des régiments d'infanterie, de gardes mobiles et de gardes nationaux sont là en réserve, tandis que nos batteries et nos forces font entendre des détonations formidables. De longues heures se passent, et on ne réclame pas nos services. Cependant, vers 3 heures, on nous invite à nous avancer jusqu'au village de Drancy. Nous y restons une demi-heure environ, nous disposons à aller relever des blessés. Quelques-uns d'entre nous portent le drapeau de la Convention de Genève. Les autres se mettent deux à deux à chaque pancart. Tout à coup, un intendant militaire, accourant vers nous, nous ordonne de nous retirer immédiatement, car les obus prussiens commencent à arriver au Drancy. Nous en entendons au-dessus de nos têtes les sifflements sinistres. Nous obéissons à l'ordre qui nous est donné. L'un de nos amis qui avait laissé dans une maison un drapeau et un brancard, ayant été les chercher, voit un obus éclater à 50 pas de lui. Notre retraite était de peu d'importance, mais combien nous fûmes attristés en voyant que nos troupes aussi se retiraient. Les artilleurs ramenaient leurs pièces, et les innombrables soldats d'infanterie qui remplissaient la plaine voyaient finir la journée sans avoir fait autre chose que de stationner par 6 ou 8 degrés de froid. Que s'était-il passé sur d'autres points? Sur notre droite, les généraux Malroy et Blaise avaient occupé, heureusement, Neuilly-sur-Marne, Ville-Évrard et la Maison-Blanche. Sur notre gauche, les troupes de l'amiral La Roncière avaient attaqué le Bourget. Nos braves marins s'étaient élancés avec leur intrépidité ordinaire et avaient un moment été maîtres de cette position, si souvent gagnée et perdue. Mais cette fois encore, nos troupes ne purent s'y maintenir et se retirèrent après avoir fait 100 de prisonniers. Du côté de Mont-Valérien, le général Noël avait fait une forte démonstration sur Montretout, Buzenval et l'île du Chiard. Cette journée ne pouvait avoir des résultats définitifs, et elle n'était que le commencement d'une série d'opérations. Pendant la nuit, nos soldats furent victimes, sur l'un des points occupés par eux, d'une surprise bien regrettable. des soldats prussiens restés dans les caves de la ville Évrard, que nous avions eu l'imprudence de ne pas explorer, attaquèrent soudainement nos postes. Ceux-ci ripostèrent avec vigueur et chassèrent l'ennemi, mais le général Blaise, qui s'était en toute hâte porté à la tête des troupes, fut blessé mortellement. Hélas, un ennemi plus redoutable que les Prussiens devait arrêter nos opérations. C'était le froid. Nous retournâmes le lendemain de l'action au Drancy et nous pûmes constater avec douleur tous les maux causés par une température vraiment sibérienne. Les soldats faisaient pitié après la nuit passée en plein air. Leurs membres étaient engourdis, et je doute que si une action se fût engagée, ils eussent été capables de manier leurs armes. On les employait à des travaux de terrassement et de tranchées en vue des opérations futures, mais ce travail lui-même ne les réchauffait pas et la terre était tellement durcie que la pioche pouvait à peine l'entamer. Nous ramenâmes quelques blessés de la veille et un grand nombre de malades. Le vendredi 23 et le samedi 24, le thermomètre étant descendu à 15 degrés au-dessous de zéro, il devint nécessaire de faire entrer nos troupes, parmi lesquelles s'étaient produits 400 cas de congélation. Cette interruption forcée d'une entreprise dont on espérait beaucoup produisit une impression douloureuse sur la population parisienne qui voyait avec inquiétude s'écouler les semaines et se consommer les vivres. Mais pour nous, il y eut, nous l'avouons, un grand soulagement de cœur à penser que le sang allait cesser de couler pendant ces jours où l'Église universelle se préparait à célébrer la plus touchante et la plus douce des fêtes. Il a été prouvé plus tard que la nuit même de Noël, nos cruels ennemis avaient poussé avec la plus grande activité leurs travaux pour l'installation des canons Krupp. Ô douleur, ô scandale, aux malédictions de la guerre.